Alors bonsoir, merci d'être présent à cette quatrième conférence du cycle 2014 Salon Double de conférence sur la littérature contemporaine. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Anthony, mais avant de présenter la conférencière et son intervention, je vous invite tout de suite à venir à la dernière conférence qui aura lieu le 22 avril prochain, un mardi, encore ici de 5 à 7. Et on va recevoir Dominique Bourque qui va nous parler du marquage qui tue, donc de son enquête en hétéronymie, des concepts qu'elle aura sûrement l'occasion d'élaborer et de définir avec nous. Donc ça, ce sera pour la dernière conférence de cette saison qui va avoir lieu mardi le 22 avril. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Anthony, qui depuis août 2013 est faculty lecturer au Centre d'enseignement du français de l'Université McGill. Elle mène également des recherches dans le domaine de la littérature contemporaine française et s'intéresse aux figures de la répétition, aux théories de l'altérité ainsi qu'à celles de l'intertextualité, de l'intratextualité et de l'intermédialité, notamment au lien à faire entre la danse et le texte. Et c'est surtout pour ces liens-là que nous l'avons invitée ce soir. Sa thèse de doctorat qu'elle a soutenue en mai 2012 à l'Université de Toronto s'intitule « Figure de la répétition intratextuelle chez Nathalie Sarraute, leitmotiv, cliché, lieu commun, topoi et stéréotype » et envisage l'œuvre sarrautienne comme un grand texte, un tout signifiant, organisé par des figures répétitives. Et depuis 1997, Sarah Anthony travaille aussi dans le milieu de la danse professionnelle en tant que danseuse et chorégraphe. Combinant ces deux passions, la littérature et l'art du mouvement, sa communication d'aujourd'hui s'intitule « Entre les bons et les méchants, entre le texte et la danse, la belle au bois dormant selon Perrault, Petitpas, Eck et Locke ». Donc, je remercie Sarah d'avoir accepté notre invitation à Brigitte et à moi et je te cède la parole.
D'accord. Merci, Pierre-Luc. Et merci à vous également d'être ici malgré les intempéries. On a eu de la pluie, de la neige aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, il est indéniable que l'art de la danse classique et celui de la littérature sont fortement liés. Roméo et Juliette, Don Quichotte et Cendrillon ne sont que quelques exemples de ballets qui puisent leur inspiration d'œuvres littéraires. Ainsi, il est peu surprenant que plusieurs chorégraphes se sont inspirés du conte de Charles Perrault, La Belle au bois dormant, pour créer des ballets classiques et contemporains. En 1890, Marius Petitpas met en scène La Belle au bois dormant, qui suit les grandes lignes du conte de Perrault. Un siècle plus tard, Mats Eck et Édouard Locke font des clins d'œil à ces grands classiques, l'un gestuel, l'un textuel, dans leur ballet contemporain Sleeping Beauty, qui a été mis en scène en 1996, et Amja, qui a été mis en scène en 2007. Ayant déjà découvert au cours de mes recherches que les archétypes du bien et du mal sont des outils qui permettent la transposition du texte en mouvement, pour l'exemple de La Belle au bois dormant chez Petitpas et Locke, je vais élargir mon corpus quant à cette question pour voir comment Eck utilise ce même outil dans sa version dansée de cette histoire bien connue. Cette conférence cherchera donc à mettre en valeur l'importance de l'archétype pour le rapport texte-danse et à approfondir la compréhension de ce lien intermédiaire, à savoir comment on passe du textuel au gestuel et, par extension, comment on narre à travers le mouvement. En examinant les emplois que font trois chorégraphes de l'archétype, cette communication visera également à établir si l'usage de cet outil de transposition change d'une époque à une autre. Alors, de la période du ballet classique, Petitpas, à l'ère du ballet contemporain avec Eck et Locke. Mais revenons d'abord sur ce que j'ai relevé de mes analyses portant sur les liens entre le texte et la danse dans le ballet classique La Belle au bois dormant. Dans une communication que j'ai donnée en 2008, j'ai identifié quatre procédés textuels qui ont permis, en 1890, au librettiste Ivan Sevelochki, au chorégraphe Marius Petitpas et au compositeur Tchaïkovski d'adapter le texte de Perrault afin de créer ce qu'on appelait à l'époque un ballet féri. En poursuivant cette réflexion, j'ai proposé en 2009 que la transposition à la fois gestuelle, visuelle et musicale de ce conte de fées s'est faite non seulement au moyen de procédés textuels, de la reconfiguration, de la substitution, de l'élimination et de l'addition, mais aussi par le biais d'archétypes. Une notion jungienne qu'il définit, et je le cite, comme étant « the existence of definite forms in the psyche, which seem to be present always and everywhere ». Plus précisément, j'ai découvert que ces quatre procédés étaient employés dans plusieurs cas pour rendre aussi clair que possible la distinction entre les personnages bienveillants et malveillants sur scène, ce qui s'avère un élément essentiel à la transposition du texte en mouvement. Nous savons tous que cette dichotomie archétypale entre le bien et le mal a longtemps été perpétuée, entre autres par le christianisme, et qu'en raison de cela, ce concept est facilement reconnaissable par un vaste public. De ce fait, j'ai constaté que Sevolozhsky, le librettiste, porte une partie importante de ses efforts éditoriaux, peut-être de façon instinctive, sur la mise en valeur de cette dichotomie, pour ensuite permettre à Petipa et à Tchaïkovski de transposer l'histoire de Perrault sur scène, de sorte à ce qu'elle soit comprise dans son ensemble par la majorité des spectateurs. Par exemple, le contraste qu'établit Sevolozhsky entre les bons et les méchants dans son libretto est accentué par la façon selon laquelle il reconfigure la chronologie des événements de l'histoire de Perrault. Dans le conte, la vieille fée arrive sans avoir été invitée au baptême, au moment où l'on se mettait à table, c'est-à-dire bien avant la cérémonie des dons, pendant laquelle chaque fée allait offrir sa bénédiction à la princesse. En contraste, dans le libretto, Carabos surgit et interrompt la fée des Lilas, qui se penche pour présenter son don à la princesse Aurore. Ce réarrangement de la chronologie des événements sert non seulement à créer un moment dramatique au sein du spectacle, mais il indique surtout aux spectateurs que la fée Carabos est l'opposante principale d'Aurore et que la fée des Lilas est l'adjuvante la plus importante de la jeune princesse. J'ai également pu constater que, dans son libretto, Sevolozhsky élimine certains personnages et presque le tiers des événements de l'hypothèse, de sorte à concentrer la malveillance tout entière en un seul personnage, la méchante fée Carabos. Par exemple, le personnage de la bonne vieille, qui, dans le conte de Perrault, donne à la princesse le fuseau avec lequel elle se piquera, est substituée dans le libretto de Sevolozhsky par la méchante fée Carabos qui se déguise en vieille femme, assurant ainsi la réalisation du mauvais sort qu'elle avait jeté sur la princesse. Sevolozhsky supprime également tous les événements du conte qui viennent à la suite du mariage du prince et de la princesse. Ceci renvoie principalement au penchant cannibale de la mère du prince qui était en effet une ogresse. Évidemment, l'épisode du carnage qui est présent dans l'hypothèque, pendant lequel l'ogresse demande à son maître d'hôtel de lui servir ses deux petits-enfants et sa bru dans une sauce Robert, se serait mal prêté à l'esthétique du ballet Ferry, qui devait être spectaculaire et non pas morbide. En outre, en remplaçant cette partie de l'histoire avec les festivités du mariage, éliminant ainsi le personnage de l'ogresse, Sevolozhsky peut se permettre de donner plus d'importance au personnage de la méchante fée Carabos, qui a un rôle plutôt secondaire dans le conte de Perrault. La fée Carabos de Sevolozhsky remplace donc toutes les personnifications du mal que l'on retrouve dans le conte de Perrault, soit la vieille fée, l'ogresse ainsi que la fileuse, qui participent inconsciemment à la réalisation du mauvais sort. Dans son libretto, Sevolozhsky emploie également le procédé de l'amplification lorsqu'il décrit la fée qu'on avait oublié d'inviter à la cérémonie du baptême, qui est, par contraste, décrite très succinctement dans l'extrait suivant du conte. Et là, je cite le texte de Perrault. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour, et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas le moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleura. Alors, en présentant la fée qui n'avait pas été invitée au baptême comme asociale et rancunière, Perrault concrétise le concept du mal, tel que personnifié par cette fée, au moyen de 2 caractéristiques. Il crée ainsi une représentation de la notion du mal qui s'avère beaucoup moins étoffée et très différente que celle que présente Sevoloshki dans son libretto, dont je vous cite un extrait de la traduction anglaise, parce qu'évidemment le libretto était écrit en russe. Alors, when her turn comes, the lilac fairy approaches the cradle to present her gift. As suddenly, a loud noise is heard at the entrance. A page runs in and informs Catalabut, master of ceremonies, that a new fairy, whom they forgot to invite to the feast, is already at the castle gate. This is the evil fairy Carabosse, the most powerful and evil of the entire land. Carabosse appears in a wheelbarrow drawn by 6 large rats. Ugly, dirty pages accompany her. Catalabut, neither dead nor alive, throws himself at the knees of the evil fairy, begging her for forgiveness and promising to serve her faithfully to the end of his days. Carabosse laughs at him mockingly and entertains herself by plucking out tufts of his hair and throwing them at the rats who devour them. Soon, Catalabut's head is completely bald. Aurora, thanks to the gifts of her 6 godmothers, says Carabosse, will be the most beautiful, the most seductive, the most clever of all princesses in the world. I do not have the power to deprive her of those qualities, but in order that her happiness never be disturbed, you see how good I am, she will fall asleep the first time she pricks her finger or hand, and her slumber will be forever. The king, queen, and entire court are dumbfounded. Carabosse makes signs with her wand over the cradle, pronouncing magic words, and, happy at the trick she's played on her sisters, begins to guffaw. Her gaiety is transferred to all her ugly retinue. Alors, dans le libretto, à la différence du conte, la malfaisance n'est pas tout simplement impliquée par le biais d'un caractère asocial ou rancunier, mais elle est rendue explicite, entre autres par l'emploi de l'adjectif « evil » qui est accompagné du superlatif « the most ». Sevoloshki utilise également des moyens plus subtils pour insister sur le fait que cette fée est une personnification, voire une concrétisation du concept du mal. Il lui attribue par exemple le nom de « Carabosse » qui renvoie à un type de difformité physique, caractéristique qui sert souvent à dénoter le mal, comme l'accentue Marie-Louise von Franz dans son ouvrage intitulé « Shadows and Evil in Fairy Tales », que je cite. « In the archetypal experience of evil, evil powers are often seen as a crippled human or as a distorted thing. » Dans le libretto, la représentation du mal, telle que personnifiée par la fée Carabosse, compte également 3 autres éléments, de nature sonore, visuelle et comportementale, qui n'apparaissait pas dans l'hypothèse. Premièrement, l'arrivée de la fée Carabosse est marquée d'un son fort, ce qui perturbe l'harmonie des airs qui accompagnaient la scène des bénédictions. Deuxièmement, la brouette de la fée Carabosse est tirée par des rats, symbole de saleté et de maladie. Enfin, à la différence de la fée du conte de Perrault, qui ne fait que jeter par dépit un mauvais sort sur la princesse, les actions malveillantes de Carabosse sont nombreuses. En plus du mauvais sort qu'elle jette sur la princesse, elle punit Catalabut en lui arrachant les cheveux, elle se déguise pour tromper les membres de la cour, et son rire, qui est décrit par le librettiste comme étant diabolique, ponctue chacune de ses mauvaises actions. Les modifications apportées au conte par le librettiste indique qu'il travaille avec au moins deux contraintes. Premièrement, son libretto doit faciliter le travail d'adaptation que feront par la suite Petit Pas et Tchaïkovski. Ainsi, pour concrétiser la notion archétypale du mal, Cebulski choisit de le faire au moyen d'éléments visuels, sonores et comportementaux. Tous ces éléments se prêtent autant à un texte qu'à une mise en scène. Deuxièmement, le travail du librettiste cherche à assurer que l'histoire transposée soit aussi compréhensible que possible, tant dans le libretto que dans la pièce dansée. Pour ce faire, lorsqu'il s'agit de donner corps au concept du mal, il unifie les multiples personnifications qu'en fait Perrault en un personnage, tout en amplifiant et en explicitant la malveillance de la vieille fée qui est plutôt implicite dans le conte. De la sorte, il tâche d'assurer que la fée Carabosse sera perçue par la majorité des spectateurs comme une personnification du mal, facilitant ainsi en partie la mise en mouvement du conte. En comparant le libretto à une représentation du ballet de Petit Pas, j'ai remarqué que même si Cebulski s'évertue à contrôler, entre autres, la perception qu'auront les spectateurs du personnage Carabosse, il donne toutefois une certaine liberté créatrice à Petit Pas quant à la représentation visuelle qu'il fera de la méchante fée, puisque le libretto ne donne pas de description physique de cette dernière. Cela dit, regardons maintenant un extrait de La Belle au bois dormant, chorégraphié par Petit Pas et dansé par le ballet Kirov en 1982. De Cebulski, Petit Pas accentue la dichotomie archétypale du bien et du mal par l'entremise de la gestuelle qu'il donne à ses danseurs. Accompagnée d'une musique violente et diabolique, les mouvements de la fée Carabosse se distinguent de ceux qu'emploient les autres personnages du ballet par sa qualité abrupte, inélégante et spasmodique. Malheureusement, on n'a pas vu dans l'extrait, on n'a pas vu les autres danseurs qui danse, mais la distinction entre les deux gestuels est très grande. Typiquement, les mouvements qu'exécutent les danseurs de ballet sont très stylisés. Ils sont gracieux, élégants, légers et précis. C'est en établissant un contraste entre la gestuelle typique et les mouvements atypiques que Petit Pas fait la différence entre les bons et les méchants sur scène. De même, les couleurs des costumes et le ton de la musique aident à distinguer les personnages bienveillants de ceux qui ne le sont pas. Dans l'extrait que nous venons de voir, les couleurs sombres que portent la fée Carabosse et sa suite s'opposent évidemment aux couleurs claires des six bonnes fées. D'autant plus que Carabosse et la fée des Lilas ont chacune leur propre leitmotiv musical qui les caractérise et qui les rendent reconnaissables par Louis. Ces détails ne font pas partie du libretto et représentent les éléments ajoutés par la mise en scène au scénario quant à l'évocation visuelle, gestuelle et auditive de la dichotomie archétypale du bien et du mal. Avant de mettre en scène sa propre représentation, de mettre en scène sa propre représentation de la notion du mal, Petit Pain a également recours au travestissement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vieille fille était un homme, était dansée par un homme. Alors, même si la grammaire du conte et celle du libretto indiquaient que la méchante fée devrait être une femme, ce fut le célèbre danseur Enrico Cecchetti qui dansa le rôle de la fée Carabosse lors de sa première en 1890. À l'époque, le travestissement était une pratique courante dans le domaine du ballet. Ceci dit, Petit Pain n'était pas le seul à employer cette stratégie pour accentuer la malveillance d'un personnage. Notamment, le rôle de la méchante fée Madge dans La Sylphide a également été dansé pour la première fois en 1836 par un homme. Alors, selon moi, dans les deux cas, l'ambiguïté sexuelle de l'homme en travesti servait à insister sur la monstruosité du personnage en question. Ni femme, ni homme, les personnages de Carabosse et Madge étaient conçus pour évoquer un sentiment d'anxiété chez le spectateur, qui devait en principe ressentir une certaine abjection envers ces méchantes fées en raison de leur apparence troublante. En outre, à l'époque, le public avait une attitude plutôt négative envers le ballerin, qui se voit éclipsé par le culte de la beauté féminine qui a marqué l'âge romantique du ballet, alors de 1830 jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est pendant cette période que l'on a introduit les tutus et les pointes dont les boudures permettaient aux ballerines de créer une illusion d'extrême légèreté. Se prêtant moins bien à cette nouvelle esthétique, le ballerin passe ainsi au second plan. Il devient le partenaire qui soulève et met en valeur la grâce de la danseuse. Par rapport au rôle créé pour les ballerines, hormis quelques exceptions, ceux attribués à l'époque aux danseurs étaient secondaires, moins dansés et plutôt mimés, comme fut celui de la fée Carabosse. L'effacement du danseur au cours du 19e siècle s'explique également, selon Burt et Gard, par des raisons socio-économiques de l'époque, tout comme l'atteste cet extrait de leur excellent ouvrage qui s'intitule « Men Who Dance, Aesthetics, Athletics and the Art of Masculinity » que je me permets de vous citer. First, this period was marked by middle-class anxiety about gender relations within a rapidly industrializing and urbanizing society. Second, outside the art form, bourgeois society seems to have associated ballet with an effete aristocratic sensibility, which positioned the male dancer in opposition to the new, professional, productive, and soberly attired male body. This coincides with a lowering of the status of ballet, generally, a factor which is tied up with its association with the female body, and which made it an unlikely career choice for men of any social strata. Quant à la place du danseur dans l'esthétique romantique du ballet, Gard propose que « The dancing male body came to be an unwanted reminder of the impure, fecund, and overly vigorous working class body. » Autrement dit, le corps du danseur représentait une menace envers la pureté d'une beauté féminine idéalisée. En fin de compte, le ballerin était devenu en quelque sorte le souffre-douleur de cette époque ravagée de malaises sociaux. Tenant compte des raisons susmentionnées, je propose, que l'homme en travesti ait suscité encore plus d'anxiété chez les spectateurs que le danseur non déguisé, se prêtant ainsi particulièrement bien à l'évocation de la malveillance. Un siècle plus tard, en 1996, le directeur artistique du Culbert Ballet, Mats Eck, revient sur l'histoire de la Belle au bois dormant. Dans sa reprise intitulée « Sleeping Beauty », Eck modifie complètement les événements du conte et développe cette nouvelle histoire au moyen d'une gestuelle à la fois classique, contemporaine et folklorique. Hormis quelques modifications quant à l'ordre des pièces musicales, seule la musique de Tchaïkovski reste plus ou moins inchangée. D'origine suédoise, Eck, un des enfants terribles de la danse contemporaine, rend le conte de Perrault et le ballet Ferry de Petipa presque méconnaissables. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec une variété de ballets classiques dont Gisèle, Le Lac des Cygnes et Carmen. Il les a complètement transformés. Des reprises qui, par leur humour noir et leur créativité, lui ont assuré une renommée mondiale. Ainsi, chez Eck, Sleeping Beauty devient sensuel, devient violent et devient psychologique. Une version du conte de fées qui est destinée aux adultes plutôt qu'aux enfants. Pour commencer, cette chorégraphie met en scène l'amour que partagent la reine Sylvia et le roi Florestan, ainsi que leur désir d'avoir un enfant. Des détails qui ne figurent ni dans le conte et ni dans le ballet Ferry de Petipa. Ensuite, la cérémonie des dons est remplacée par la naissance d'Aurore à l'hôpital, où la reine Sylvia est assistée par les bonnes fées et soignée par le médecin Carabosse, qui facilite son accouchement à l'aide d'analgésiques. Par la suite, on découvre qu'Aurore est devenue une jeune fille gâtée, fugueuse et de mœurs légères, qui finit par tomber amoureuse de Carabosse, qui réapparaît sur scène comme un jeune émigrant. Alors, ce dernier initie Aurore à l'héroïne. Alors, on voit que le fuseau se transforme en seringue. Aurore n'est pas piquée par le fuseau, mais plutôt par la seringue. Il partage ensuite un rapport abusif avec elle, et finalement, il est tué par le prince désiré. Aurore se voit enfin libérée de sa toxicomanie et elle marie son prince charmant comme dans le conte de fées. Malheureusement, par la suite, elle donne naissance à un enfant dont le père, on s'en doutait bien, n'est pas le prince désiré, mais plutôt Carabosse. Nous voilà donc au sein d'un récit aux nuances qui sont contemporaines, qui ne retient que quelques vestiges du conte qui l'a inspiré. Alors, regardons maintenant un court extrait de la pièce qui fut dansée par le Culbert Ballet en 1999. Une production qui était destinée, comme vous allez pouvoir le voir, c'était destinée à la télévision. Alors, cet extrait correspond musicalement au même moment que la première vidéo que nous avons vue. Alors, comme vous pouvez voir, l'esthétique est très différente déjà. Thank you. Alors, elle donne naissance à un œuf. Hein? C'est assez rigolo. Alors, avant de discuter de la représentation des archétypes du bien et du mal chez Eck, il faut signaler que les règles du ballet classique ne sont pas respectées, évidemment, par ce chorégraphe. Notamment, il met en scène des épisodes, comme celui de la naissance d'Aurore, que nous venons de visionner, qui sont trop vulgaires pour le style du ballet féerie, qui, rappelons-le, cherche à être spectaculaire et beau. En outre, à plusieurs reprises, la chorégraphie est beaucoup trop sensuelle et violente pour ce type de spectacle. Les danseurs mimant des actes sexuels, Aurore et Carabos s'injectant de drogues fortes, et le prince désiré tuant Carabos en le criblant de balles. De toute évidence, la majorité des costumes choisis ne respectent pas l'esthétique du ballet féerie non plus, qui cultivait la féminité et la légèreté. Pour ne citer qu'un exemple, la fée des lilas porte un pantalon et des souliers de ballet plutôt qu'un tutu et des pointes. La contemporanéité de ce ballet est aussi soulignée par la présence de certains objets sur scène, comme les télévisions et le téléphone et la voiture, on ne les a pas vus dans cet extrait-là, mais ils sont présents dans le ballet, qui semblent mettre en relief la culture de consommation qui était bien présente dans les années 90 et qui persiste aujourd'hui. Les ajouts que fait Eck à l'histoire dansée bien connue de La Belle au bois dormant visent donc à mettre en relief plusieurs préoccupations de son époque, comme l'obsession du plaisir sexuel, l'accumulation de biens et la toxicomanie. Comme l'ont remarqué bien des critiques telles que Spanberg, Jensen et Midgelow, la tendance qu'a ce chorégraphe suédois d'actualiser les classiques de cette façon est une caractéristique de son style chorégraphique. D'ailleurs, les représentations qu'il fait du bien et du mal dans Sleeping Beauty sont renouvelées par cette mise en valeur des angoisses sociales de son époque qui est si importante pour ses œuvres. Ainsi, pour insister sur la malveillance du personnage de Carabos, ce personnage est présenté comme un étranger, ce qui est suggéré par le choix d'un danseur dont la physionomie est arabe. En contraste avec celle d'Aurore, on n'a pas vu Aurore malheureusement, mais Aurore est une blonde aux yeux bleus qui est typiquement scandinave. Rappelons que Eck est suédois. Alors, si le choix des danseurs ne rendait pas évidente l'étrangeté de Carabos, les propos du prince désiré qui le traite de, et je cite, « goddamn immigrant » rendent ce fait explicite. Ce n'est plus le travestissement qui sert à insister sur la monstruosité du personnage de Carabos, mais plutôt la couleur de sa peau. La xénophobie qu'exprime le prince désiré, que le chorégraphe cherche certainement à dénoncer, fait écho au sentiment de dégoût qu'on devrait avoir envers Carabos en raison de sa malveillance. De plus, l'antipathie de ce personnage est également accentuée du fait qu'il est accro à l'héroïne et qu'il violente Aurore ainsi qu'une vieille dame qu'il cherche à dévaliser. Il importe aussi de souligner que dans le ballet classique, les effets de la malveillance de Carabos sont d'abord mitigés par le don de la fée des lilas et sont ensuite complètement effacés par le baiser du prince désiré. Dans le Sleeping Beauty d'Eck, la rédemption d'Aurore lorsqu'elle marie son prince n'est que temporaire, car elle donne naissance, n'oublions pas, au bébé de Carabos. Par contraste au ballet féerie, où le mal est progressivement éradiqué par le bien, dans le ballet contemporain d'Eck, le rideau tombe sans que le mal ait disparu. Certes, cet écart entre le rapport que partagent les notions archétypales du bien et du mal chez Eck et chez Petipa reflète une divergence d'esthétique. Mais elle découle également du fait que chaque chorégraphe fait face à des contraintes différentes. Rappelons qu'en 1890, les archétypes sont employés par Petit Pain pour raconter une histoire méconnue. Donc, la représentation entre le bien et le mal doit être aussi claire que possible, l'un effaçant progressivement l'autre. En 1996, l'histoire d'Aurore est familière. On connaît cette histoire-là. Alors, le chorégraphe peut se permettre de complexifier le lien entre les deux entités, le bien et le mal, pour montrer que les rapports humains et les individus qui y participent ne sont pas unidimensionnels. Il est intéressant de remarquer que le travestissement n'est pas utilisé par Eck pour créer une angoisse chez le spectateur. Ceci peut s'expliquer du fait que la tension que génère la présence du ballerin sur scène au 19e siècle est presque complètement dissipée vers la fin du 20e siècle. Par conséquent, le travestissement est souvent utilisé dans les ballets contemporains à des fins parodiques et burlesques. Je pense notamment au ballet Trocadéro de Monte Carlo, une troupe américaine créée en 1974, qui met en scène des ballets classiques dansés en travestis par des hommes avec des résultats absolument hilarants. Alors, vu qu'il est évident qu'Eck cherche à déconstruire les ballets classiques, c'est logique qu'il ne perpétue pas la tradition du travestissement dans sa réinterprétation de ce type de production. D'ailleurs, ce n'est pas la seule convention relative au gender qui est transformée par Eck. Par contraste à la gestuelle et à la structure des ballets féeriques, qui sont grandement influencés par une hiérarchie homme-femme où ce premier est éclipsé par cette dernière, l'œuvre du chorégraphe suédois est composée pour la plupart de mouvements qui sont ni féminins ni masculins et elle ne comporte aucun pas de deux, proprement dit, où la femme est mise en valeur. Midgelow a donc raison de dire, et je la cite, que Eck's movement vocabulary is not a gender-specific one. The movement language usefully opens up gender binaries, leading to much more contemporary representations of men and women. Eck exposes complexities of gender by inverting the far more conventional, stereotyped and idealized figures of traditional ballet. Pareillement, Édouard Locke joue lui aussi avec les conventions qui régissent les rapports hommes-femmes dans Amjad, une chorégraphie qui date de 2007. Regardons maintenant un enregistrement vidéo promotionnel de cette création. Malheureusement, je n'ai pas une vidéo de l'intégrale, alors je dois vous montrer celle-ci, mais je pense que ça va. Ça fonctionne quand même. Alors, de renommée mondiale, la troupe montréalaise La 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 Human Steps, dirigée depuis 1980 par Édouard Locke, a développé au cours des années une gestuelle complexe, à la fois frénétique et provocatrice, qui est presque indissociable de l'incomparable Louise Le Cavalier. L'interprète musclée à la chevelure platine rebelle, qui a longtemps servi de muse à Locke, interprétant la chorégraphie de celui-ci sans aucune retenue apparente. Quoique le répertoire de La 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 Human Steps ne compte qu'une dizaine, de pièces, celles-ci sont en revanche presque débordantes de mouvements, comme on a pu le voir, et une de ses plus récentes créations, Amjad, ne fait pas exception à la règle. Sans entracte, ce ballet contemporain de 80 minutes renvoie aux classiques du Lac des Cygnes et de La Belle au bois dormant, sans perdre pour autant son avant-gardisme. Les échos des deux classiques résonnent, notamment dans la gestuelle créée par Locke, dans la composition musicale de Briers, de Lang et de Hargreaves, et au sein du film réalisé par Turpin, projeté sur trois écrans circulaires en guise intermède. C'est ce qu'on a vu à la toute fin. Pour Locke, ce dialogue entre le passé et le présent suscite une tension qui lui sert d'inspiration. Et je le cite. I've always thought that memories create an interesting tension in a theater. The process by which an audience integrates and interrelates its memories onto a stage work, thereby both seeing and remembering what it observes, is something I've always enjoyed. Swan Lake and Sleeping Beauty are rare examples of a dance-generated memory that has integrated itself fully into our culture, both in terms of its imagery and its music. It's unusual to find someone who doesn't have associations and recollections of part of these ballets, even if they don't know or remember when or where these memories were integrated. This lateral relationship to the source makes working with these ballets interesting and unpredictable. It's like working with a piece of living history and both influencing it and both influencing and being influenced by it. Alors, selon Locke, la mémoire collective a été marquée par ces deux ballets classiques. Et en partant de ce principe, il confronte dans Amjad les souvenirs qu'on a de ces ballets, qui sont souvent lourds de conventions, à la réinterprétation qu'il fait de ces classiques. Le titre même de sa pièce est symbolique du regard critique qu'il porte sur ce monde très conventionnel de la danse classique. D'une part, l'expression arabe « Amjad » renvoie à la fois au Maroc, pays natal de Locke, et à la fascination du romantisme pour tout ce qui était considéré exotique. De l'autre, le nom épicène dénote la tendance qu'on avait à cette même époque d'attribuer au ballet des noms de femmes, comme Gisèle, Paquita, Coppelia, reflétant ainsi le culte prédominant de la féminité. En choisissant un nom qui se prête tant à un homme qu'à une femme, Locke escamote cette tradition, afin de placer le ballerin et la ballerine sur le même pied d'égalité. Par ailleurs, il s'attaque aussi à la stratégie par laquelle les ballets romantiques ont recours à l'homme en travesti, vêtu d'un costume sombre, pour évoquer la malveillance. À la différence de La Belle au bois dormant de Petit Pas, dans laquelle seules les personnifications du mal sont revêtues de noir, les danseurs d'Amjad, à une exception près, portent tous cette couleur, éliminant ainsi la conception qu'elle serait évocatrice de la malveillance. Qui plus est, comme Eck, Locke ne fait pas la différence entre la gestuelle des bons et des méchants. Puisqu'il n'est plus question de raconter une histoire linéaire, mais plutôt de la déconstruire, ainsi que toutes les conventions auxquelles elle renvoie. Dans le court extrait que nous venons de visionner, Luc réinterprète également la tradition du travestissement en mettant un homme sur pointe tout en le dénudant de son costume féminin qu'il aurait porté auparavant. Torse nu, le ballerin retrouve la sensualité qu'on lui avait niée pendant l'époque romantique. Son corps ne représente plus une menace envers la pureté d'une beauté féminine idéalisée, d'autant plus qu'il ne danse d'autant plus qu'il danse son pas de deux avec un homme. Notons que dans le contexte du ballet classique, le pas de deux est traditionnellement dansé par un homme et une femme. Il constitue un duo au sein duquel le danseur est secondaire à la ballerine, la portant parfois dans ses bras, créant ainsi l'illusion de légèreté qui est tant recherchée pendant la période romantique. En renouvelant les conventions du pas de deux, c'est-à-dire en choisissant de mettre en vedette deux ballerins plutôt qu'un couple de sexe opposé, ainsi qu'en renversant la tradition du travestissement, Locke cherche à dénoncer la discrimination sexuelle qui a marqué le domaine du ballet classique au 19e siècle. Dans cet extrait d'Amjad, la ballerine est décentrée, à la fois sur scène et de manière idéologique, puisque c'est l'homme qui danse sur pointe en avant-scène. Alors, dans l'extrait, dans le passage de la vidéo qui m'intéressait, il y avait le pas de deux avec les deux hommes qui étaient deux en avant-scène. Et puis, un peu en retrait derrière, il y avait également la danseuse qui était en retrait. Alors, Locke emploie également l'éclairage pour accentuer sa perception du ballet classique comme étant parfois archaïque. À la différence du ballerin qui danse sous une lumière au ton ambré, produisant ainsi une impression qu'il appartient au présent, la ballerine est éclairée en bleu, couleur employée au théâtre pour évoquer le rêve ou le passé. La thématique de la désuétude, du culte de la féminité, est également reprise dans le film, qui ponctue le spectacle où l'on aperçoit une femme d'une beauté frappante, dont la peau est en train de se décomposer. Alors, c'était la dernière image qu'on a vue. Pourtant, la remise en question que fait Locke de la représentation de la notion archétypale du mal, telle qu'il est personnifié dans les ballets romantiques par un homme en travesti, est à double tranchant. Car en mettant un homme sur pointe, Locke présente une image précaire et fragile du ballerin, qui s'oppose diamétralement à celle qui lui était associée jadis. De la sorte, Locke oblige le public à concevoir la féminité du danseur, ou la masculinité, pardon, du danseur, d'une façon nouvelle. Pour certains spectateurs, cette tâche s'avérera passionnante. Pour d'autres qui tiennent aux conventions, ce défi sera peut-être angoissant. Ainsi, le regard que porte Locke sur l'évocation du mal dans les ballets romantiques lui permet de remettre en valeur le ballerin, victime du 19e siècle, tout en évoquant chez certains membres de l'audience un malaise, comparable à celui que ressentaient les spectateurs de La Belle au bois dormant à la vue de la méchante fée Carabosse, mimée par un homme en travesti. Tout compte fait, la dimension archétypale facilite la transposition gestuelle, visuelle et musicale d'un texte, de sorte à ce qu'elle soit comprise par le plus grand nombre de personnes possible. Cependant, dans le cas de l'adaptation de La Belle au bois dormant de Perrault, que firent Sevoloshki, Petipa, Eck et Locke, il n'a pas tout simplement suffi de calquer la représentation du mal telle qu'elle apparaissait dans l'hypotexte. Chaque transposition de la malveillance a cherché en quelque sorte à déstabiliser celle qui la précédait. Pour ce faire, le librettiste, aussi bien que les trois chorégraphes, se sont évertués à rendre tangible et actuelle leur évocation du mal, soit en explicitant la malveillance de la vieille fée, qui est plutôt implicite dans le conte, au moyen de l'unification et de l'amplification, soit en renvoyant aux inquiétudes sociales d'une époque donnée, ou en questionnant les conventions relatives au gender perpétuées par les ballets romantiques. Les emplois que font le librettiste et les chorégraphes de l'archétype pour évoquer la malveillance semblent donc suivre une seule logique dans les exemples que j'ai analysés. Quelle que soit l'époque, l'archétype est employé de sorte à ranimer dans l'esprit du lecteur ou du spectateur la réaction négative que devrait provoquer la notion du mal. Ainsi, l'usage que font les chorégraphes Eck et Locke de l'archétype n'est pas en soi contemporain, ce sont plutôt les thématiques qu'ils choisissent d'explorer pour actualiser la notion d'humain, comme la toxicomanie par exemple, qui le sont. La contemporanéité de l'évocation de la malveillance chez Eck et Locke découle également du fait que ces chorégraphes cherchent activement à transformer le ballet de petits pas, à réinterpréter cette œuvre, notamment par le regard critique qu'ils jettent tous deux sur les règles du ballet classique, l'un refusant d'adopter la tradition du travestissement et l'autre choisissant de réinventer celle-ci. Paradoxalement, c'est en examinant le passé, quoique de façon très critique, que ces chorégraphes créent des œuvres dont les représentations archétypales sont fidèles à leur époque et qui sont peut-être même avant-gardistes. Qui aurait cru que le temps d'une arabesque et d'un pas de chat suffit pour bouleverser les représentations traditionnelles des notions archétypales, nous obligeant ainsi à voir différemment le monde qui nous entoure. Merci.